Alors, ça va, vous êtes bien installé?
Très bien.
Bon, je vais faire une petite, je vais faire une petite présentation, comme je vous l'avais dit, avec le texte que je vous ai envoyé. Puis après, je vous laisserai vous présenter quelques minutes. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier débat, première table ronde de la matinée. Il y en a une autre qui se déroule à côté, donc sur le thème écrivain ou comédien, autour de la question comment faire vivre aujourd'hui la littérature en bibliothèque. Avant de vous présenter nos trois intervenants, que je remercie d'être ici avec nous, je me présente, donc je suis Laurent Bonzon, directeur de l'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation, qui est le centre régional du livre en Rhône-Alpes. Je remercie également l'ABF, je ne sais pas si quelqu'un est là de l'ABF, mais de nous avoir invités et proposé un stand qui est juste derrière. Et je vous proposerai à la fin de ce débat d'y passer pour vous montrer quelques éléments de documentation qui pourraient éventuellement vous intéresser. Alors, les bibliothèques, pour poser un peu le cadre de cette table ronde, les bibliothèques, lieux de citoyenneté, de sociabilité et de socialisation, sont devenus des lieux d'activité culturelle et de partenariat. Des lieux d'animation ouverts sur la ville ou sur le territoire, ainsi que sur la modernité des usages en matière d'art, de connaissances et de culture. On sait que beaucoup est fait dans ces établissements pour prévenir les attentes des usagers, pour anticiper les intérêts, etc. Mais dans un contexte où tous les indicateurs des pratiques culturelles des Français sont peu encourageants en matière de livres et de lecture, où l'on assiste du côté de l'édition à une baisse des tirages généralisés, la transmission et la médiation de la littérature contemporaine sont-elles encore des priorités pour les équipements que sont les bibliothèques, désormais médiathèques? La présence de la littérature d'aujourd'hui dans les bibliothèques est multiple. On la connaît, les collections, les clubs de lecture, les conseils, les échanges, la participation de l'établissement à des manifestations littéraires, l'accueil d'un auteur parfois, l'organisation d'un cycle de rencontres, les lectures par les auteurs, et ce sera un de nos thèmes, ou par des comédiens. Donc, il ne s'agit pas du tout ici, dans ce propos et dans ces questions, de caricaturer la présence de la littérature contemporaine dans les bibliothèques en la présentant sous la forme d'une opposition radicale entre, d'un côté, les écrivains, de l'autre, la prestation des comédiens. Tout le monde, on le sait, a sa place. Mais il est clair qu'un certain nombre de bibliothèques, aujourd'hui, on le constate, et pas seulement dans les zones rurales, font de plus en plus rarement le choix de la rencontre avec l'auteur, de la confrontation avec l'écrivain, préférant une stratégie de lecture clé en main avec une association de lecteurs, un collectif de comédiens ou une rencontre littéraire préorganisée par une manifestation littéraire de quelque envergure qui œuvre dans la ville ou à proximité. Alors pourquoi, comment le font-ils, selon quelle stratégie, avec quels objectifs et surtout pour quels résultats? C'est un peu les questions que j'aimerais poser à nos intervenants aujourd'hui. Alors qu'on sait qu'au contraire, de nombreux établissements font aussi le choix, dans un projet à long terme et culturellement ambitieux, plus ambitieux, point d'interrogation, de rencontres littéraires avec les difficultés, les risques que cela comporte. Des salles vides, hein, je pense que chacun d'entre vous connaît ce phénomène, des investissements financiers, pas toujours, excusez-moi, un retour sur investissement financier pas toujours à la hauteur. Et puis la nécessité de s'engager personnellement, de lire, de faire lire, de préparer la venue de l'auteur, d'aller le chercher à la gare, d'avoir lu son livre, parfois ses livres, et même de lui tenir compagnie, de dîner avec lui, etc. D'autres s'engagent aux côtés d'une manifestation littéraire, d'autres établissements, dans une organisation de rencontres et d'accueil d'écrivains. Et certaines bibliothèques, on le sait d'ailleurs en Rhône-Alpes, hein, où c'est le cas très fréquemment, sont même à l'origine de grandes manifestations. La fête du livre de Bron en est un bon exemple, qui est née de la bibliothèque de Bron. Voilà, donc ces questions, pourquoi, comment, selon quelle stratégie et avec quels objectifs, pour quels résultats? Et juste pour terminer, derrière ce thème qu'on a présenté un peu de manière anecdotique, je pense, se dissimule en fait des questions beaucoup plus profondes et plus révélatrices sur notre rapport au livre et au créateur, sur la place de la bibliothèque dans le processus vivant de la création, mais aussi et surtout sur la place et les attentes réelles ou supposées du public, des publics, vis-à-vis de la littérature. Et puis, évidemment, à tous les coups, des questions de budget, des questions d'engagement, des questions de stratégie, des questions de coup de cœur, de partage, et pour les bibliothèques que vous êtes, évidemment, des questions de persévérance, parce que je pense que transmettre la littérature contemporaine en bibliothèque est aussi affaire de persévérance. Voilà, donc je vais vous présenter juste un... Comment ?
Je disais d'amour.
D'envie.
D'envie, d'amour, d'envie, oui, c'est vrai. Je vais vous présenter très rapidement donc, à Isabelle Mounier, qui est comédienne et metteur en scène. Isabelle, vous me reprendrez si je dis des bêtises. Désormais à Cré, après avoir été très active, vous m'avez dit, dans la vallée du Gier, Saint-Étienne, dans le mouvance du militantisme de la lecture, du texte, etc. Puis vous avez créé à Cré Mais les Envolir, qui est un festival de lecture qui mêle justement comédiens et écrivains. Et c'est pour ça que la voix d'Isabelle Mounier sera très intéressante pour nous aujourd'hui, dont vous venez de fêter, je crois, la 5e édition. Hein, c'est ça.
Oui, oui.
Juste vous dire un mot de Philippe Georgeon, donc bibliothécaire en charge de l'action culturelle et de la communication des médiathèques de la ville de Saint-Étienne.
Oui, c'est ça. Oui.
Et puis Séverine Conessa, qui est, je crois, de toute nouvellement arrivée, non, à la bibliothèque municipale d'Annecy. Ah, pardon, 2009, moi je retarde un peu. Qui s'occupe, excusez-moi, qui s'occupe, on ne se connaît pas encore, c'est pour ça, qui est adjointe du patrimoine, coordinatrice depuis 2010 des rencontres de l'espace littéraire à Annecy et, je le précise, docteur S lettres et arts. Je ne sais pas si c'était une condition de recrutement. Monsieur le directeur est là pour s'occuper de l'espace littéraire Annecy, mais voilà, l'espace littéraire Annecy est un lieu connu en Rhône-Alpes d'un cycle de rencontres qui dure, qui est spécifique, dont vous nous direz un mot, enfin plusieurs mots, qui est un exemple de réussite en matière de transmission de la littérature contemporaine dans la région. Voilà, je vais peut-être vous laisser tout d'abord dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire quelques mots de votre activité, et peut-être je vais commencer par un bibliothécaire,
oui,
le seul homme à cette table,
qui est déjà assez rare en bibliothèque.
voilà, pour vous demander un peu, Philippe, quel est... dans le réseau des bibliothèques de la ville de Saint-Étienne, de l'agglomération de Saint-Étienne, en fait, où se déroule une fête du livre qui est très importante, quels sont un peu les rapports entre la bibliothèque et la littérature, les écrivains contemporains?
Alors nous, depuis quelques années, on a essayé effectivement, donc il y a une fête du livre qui est très importante à Saint-Étienne, et puis on a la municipalité, la ville de Saint-Étienne a souhaité que la bibliothèque soit plus associée à cette fête du livre, et notamment l'invitation notamment qui est faite aux auteurs, d'inviter aussi des auteurs. C'est quelque chose aussi qui était là de manière très, très forte, on en invitait, et puis il y a une montée en puissance qui est faite en direction des auteurs. Ça correspond effectivement, comme disait ma voisine, à côté d'une question, il y a une question d'amour, une question d'envie et de désir. Et le désir était là parce que je suis aussi avec une équipe de gens qui lisent, qui aiment lire et qui aiment lire la littérature contemporaine. Donc tout ça s'est fait de manière comme ça, un peu empirique, mais aujourd'hui c'est assez structuré. On travaille en lien avec la fête du livre. Avec les libraires aussi de Saint-Étienne, on a de bons rapports. On essaye aussi de monter des choses ensemble avec les libraires de Saint-Étienne, dont on connaît les difficultés aussi que connaissent le commerce de la librairie. Et voilà. Et donc tout ça essaie d'irriguer le territoire stéphanois. Alors on ne travaille pas sur l'agglomération, parce qu'il n'y a pas encore une agglomération stéphanoise qui permet justement d'avoir des compétences en matière de lecture publique, mais donc nous, notre rayon d'action, c'est la ville de Saint-Étienne. Alors, on a une programmation d'auteurs fréquents, variés, suivant les années, parce que là aussi, ça dépend des liens qu'on tisse aussi à la fois sur le plan local et puis par rapport à d'autres, avec d'autres festivals, mais entre 10, 15, voire 20 auteurs dans une année. Et puis, voilà, plus spécifiquement, depuis 2 ans maintenant, on est en charge aussi de la journée d'études de la fête du livre, qu'on a choisi d'axer sur la littérature, parce qu'il nous semblait qu'effectivement, c'était aussi, j'allais dire, un peu un des point faible de la fête du livre de Saint-Étienne. Et on s'était dit, ce serait bien, effectivement, de rééquilibrer cette partie qui nous semblait un petit peu, non pas absente, mais ne faisant plus tellement débat. Donc on a repris cette idée, donc on s'occupe de la journée d'études, et puis on a d'autres manifestations auxquelles on participe, et puis des coups de cœur qui nous sont personnels. Voilà. Donc à la fois des liens avec la ville, avec d'autres structures, que sont les festivals, et pas seulement la fête du livre, et puis donc une volonté propre de programmer des auteurs qui nous plaisent. On essaie toujours de partir de nos envies, de nos désirs. Alors après, ils ne rencontrent pas toujours forcément le public, mais en même temps, on part toujours de cette idée-là et non pas d'un présupposé de ce que pourrait aimer le lecteur ou de ce qu'il est censé aimer, de ce qui pourrait marcher. C'est le postulat de base.
Juste une petite question sur, parce que c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, sur cette question des journées professionnelles que vous organisez, puisque... Justement, paradoxalement, vous avez souhaité réorienter les journées professionnelles de Saint-Étienne, enfin de la fête du livre de Saint-Étienne, justement aussi vers des thématiques assez littéraires et sur ces questions d'animation et de transmission.
D'animation, et puis justement, comment on écrit aujourd'hui en France, au début du XXIe siècle, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, quelles sont les questions qu'il se pose, qu'est-ce qui émerge aussi des questions que l'on peut voir dans l'édition. Effectivement, il y a chaque année, sur plusieurs années, on voit des questions qui émergent à travers l'écriture des écrivains, et on essaye effectivement de travailler là-dessus et de réfléchir sur ce qui nous paraît important, sur ce qui émerge et sur ce qui pourrait effectivement faire sens, pour essayer de mieux médiatiser ces rencontres, et puis surtout les écrivains. Les rencontres, c'est bien, mais le but, c'est faire connaître. C'est faire connaître ces écrivains, faire connaître la diversité, parce qu'effectivement, on essaye d'inviter des écrivains qui n'ont pas forcément toujours une grande possibilité de s'exprimer. C'est aussi un des points qu'on essaye de mettre en avant. Voilà. Okay.
Séverine, peut-être j'aimerais que vous disiez un mot de l'espace littéraire et de son histoire, parce qu'en fait, c'est une histoire très longue, le cycle est très long, et voilà, on parlera peut-être éventuellement de son évolution ensuite.
Bonjour à tous, je vais vous dire quelques mots de l'espace littéraire. Effectivement, c'est une animation qui a eu beaucoup de réussite, parce que là, on prépare actuellement la 23e saison, donc c'est une longévité assez exceptionnelle pour des cycles de rencontres littéraires. L'animation, elle a été créée en 91 par Claudine Irles, qui était alors directrice de la bibliothèque. Donc elle a été mise en place, et pour le coup, la formule en 23 ans, elle n'a pas tellement évolué, parce qu'elle fonctionne très bien. Alors on a peut-être une situation assez exceptionnelle à la bibliothèque d'Annecy, mais c'est vrai que voilà, la formule marche bien, le public reste présent. On a une affluence qui oscille entre 40 et 80 personnes, voire plus selon les auteurs. Donc c'est vrai qu'on a toujours une salle quand même assez remplie.
C'est une formule vraiment spécifique, qui a une forme vraiment spécifique.
Voilà, je pense que le succès vient aussi de la formule. En fait, c'est une formule qui a été donc imaginée par Claudine Irles et puis qui a été reprise aussi maintenant dans d'autres bibliothèques. C'est le principe d'une carte blanche. Donc on demande à un auteur qu'on appelle l'auteur invitant de créer son programme pour la saison à venir. Donc il invite un auteur par mois. Donc l'avantage de cette formule, c'est que ça crée effectivement une intimité entre les intervenants, puisqu'ils se connaissent, la personne, l'auteur invitant, soit aime le travail des autres auteurs, soit les connaît personnellement. Donc il y a une sorte d'intimité qui se crée, une connivence qui se crée entre les auteurs, et du coup qui donne un peu, qui donne une vraie chaleur aux rencontres. Donc nous, la difficulté, c'est effectivement de trouver notre auteur invitant. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit à la fois un bon auteur, mais aussi quelqu'un qui soit à l'aise pour présenter les auteurs suivants. Donc là, on était aussi au cœur de cette problématique. Voilà, il faut qu'on invite quelqu'un qui soit à la fois un bon orateur et un bon auteur. Il y a des très bons auteurs, mais qui seraient incapables de rentrer dans le rôle de monsieur loyal qu'on leur donne. Donc l'avantage de ce principe de carte blanche, déjà, c'est pour les équipes, il y a quand même un gros avantage pour les équipes, c'est que ça soulage beaucoup les équipes, puisque c'est l'auteur invitant qui se charge de monter le calendrier. Donc ça, c'est... c'est un avantage. C'est lui qui décroche son téléphone. C'est lui qui sollicite les autres auteurs. Nous, l'équipe, on s'occupe justement de lire les livres, effectivement, et de rédiger les plaquettes, et aussi de la rencontre, de la préparation de la rencontre en amont et le jour même.
En fait, vous avez trouvé une bonne formule pour moins travailler et avoir plus de public. Alors, je laisse la parole à Isabelle Mounier, donc, dont le regard, justement, est un petit peu
différent,
puisque bibliothécaire, elle n'est pas.
Hein,
En même temps, elle travaille beaucoup autour de ces questions, de la présentation. Vous travaillez beaucoup autour de la question de la proposition littéraire au public, de sa forme, de quelle forme adapter, quelle lecture, voilà. Et
je vais peut-être,
ça serait bien que vous disiez un mot de votre travail.
Oui, je vais peut-être raconter brièvement l'origine de ce festival qui s'appelle Mets les envolires, qui a lieu au mois de mai à Cray, qui est né il y a 5 ans, suite à mon départ de la région Lyon-Saint-Étienne, voilà, où je dirigeais une compagnie de théâtre, où j'avais plusieurs activités autour du théâtre, dont la lecture, et je faisais partie, en tant que comédienne, du réseau Texte à dire, enfin je proposais plusieurs lectures, où il m'était demandé de faire des lectures, comment on appelait ça, théâtralisées, je crois, enfin... Voilà, des lectures...
Mise en espace.
Voilà, mise en scène, etc.
Ouais.
Bon, qui
musicale.
Progressivement me posait quand même question, mais ça s'était arrêté là. Et en arrivant donc sur ce territoire de Cray, qui est un territoire où il y a beaucoup de propositions, une manifestation artistique et culturelle, dont une qui était très importante, qui était le salon de la petite édition, un des plus gros salons qui existait en France, où j'ai rencontré des gens formidables qui ont dû arrêter pour des raisons d'épuisement, on va dire, au bout de 20 ans, leur salon, dans lequel je suis intervenue. Et parallèlement, j'ai commencé à créer des ateliers de formation, des stages autour de la pratique de la lecture à voix haute. Et là, je me suis rendu compte, on était aussi dans les années Sarkozy, qu'il y avait un besoin et un manque du côté des mots, du côté de la voix et du texte. On pouvait entendre du texte au théâtre, on pouvait entendre, mais on n'entendait plus de texte, on n'entendait plus de lecture, enfin, dans le territoire où j'étais. Et voilà, c'est né comme ça, mais les envolires. Et progressivement, alors au départ, on invitait plutôt des comédiens, puisque je suis comédienne, et puis dès la deuxième année, je me suis dit non, ça ne va pas encore, c'est pas suffisant, puisque c'était des rencontres avec des voix singulières, le sous-titre. Rencontre avec des voix singulières, donc il s'agissait de donner à entendre des auteurs donc d'aujourd'hui, mais qui font vraiment un travail sur la langue, le texte à entendre, le texte à dire. Et là, voilà, j'ai commencé à inviter un ou deux auteurs, puis à me dire que c'était ça, la voix, parce que il se passe quelque chose d'autre dans la rencontre avec l'auteur. Donc, en fait, on croise dans ce festival des rencontres d'auteurs, mais c'est des lectures d'auteurs. Hein, c'est-à-dire qu'on donne un temps d'une heure de lecture à l'auteur et un temps de rencontre. Et quelques lectures de lecteurs avertis, ou de comédiens, mais c'est avant tout des lectures d'auteurs, plus des entrées, on va dire, plus de médiation autour du livre. Cette année, donc, j'ai fait un film sur... où je suis allée filmer des gens qui lisent sans qu'on les voit, faire entendre 5 minutes de lecture, donc une heure de film. Il y a aussi je propose au collège, au lycée de participer aussi en tant que lecteur. Donc on va faire avec le lycée quelque chose autour du salon du prix des lycéens. Alors, juste une petite chose, la difficulté de travailler avec la bibliothèque, bon, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais au bout de 5 ans, il y a quand même la bibliothèque départementale qui commence à s'inquiéter que je ne puisse pas avoir un réel partenariat avec la médiathèque de Cray, qui est quand même... Il y a 5 très très belles médiathèques dans la Drôme, magnifiques, où il y a beaucoup d'animations. Donc tout donc beaucoup de choses autour de faire vivre le lieu et en fait pratiquement aucune lecture.
Alors, est-ce que...
J'ai pu faire une première lecture cette année. Et cette année, j'ai été invitée à différents stages de, on va dire, de formation auprès des bibliothécaires. Et il y a déjà une réflexion qui est en train de s'amorcer pour revenir à la lecture. J'espère aussi à la lecture rencontre d'auteurs, mais en tout cas à la lecture.
Philippe, oui,
je souhaiterais réagir parce que tout à l'heure, vous avez parlé donc de l'association Texte à Dire. Nous, la bibliothèque aussi, fait partie de cette association-là. Et c'est vrai que je peux comprendre effectivement le questionnement qui est le vôtre.
Alors peut-être dites-nous un mot de... Je ne sais pas si le public connaît.
Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une association de bibliothécaires de la région lyonnaise qui s'étend jusqu'à Saint-Étienne et dans l'Isère, et qui regroupe des bibliothécaires et qui mettent au point une programmation sur des thématiques qui leur sont propres. Enfin, c'était surtout le projet de départ, et ce projet a beaucoup évolué puisque maintenant on reçoit plutôt des propositions des comédiens qui sont des propositions effectivement clés en main. Et c'est vrai que j'ai bien vu l'évolution en un certain nombre d'années. J'allais dire, je ne sais plus depuis combien de temps j'y participe. Et on a quand même vu cette évolution des propositions qui étaient faites, qui émanaient des bibliothécaires, qui étaient construites, qui étaient pensées, pour lesquelles les bibliothécaires se mobilisaient en termes de textes, en termes de thématiques. Et puis, tout petit à petit, les choses avec une mise en lecture qui était relativement simple, un lecteur, un comédien, on va dire un comédien. Et voilà, et l'évolution s'est faite. Et maintenant, on a demandé, alors c'était un deuxième comédien, une deuxième voix, et puis après d'un instrument. Et puis maintenant, pour finir, par programmer les propositions des comédiens et des troupes. Alors là aussi, on conçoit aussi qu'il y a une économie aussi du spectacle, une économie du livre, qui ne se comprennent pas forcément toujours. Mais c'est vrai que j'ai vu cette évolution et je trouve ça effectivement regrettable. Alors j'y participe toujours parce que effectivement, c'est aussi une demande de mes collègues. Je veux dire, là aussi, il y a une demande assez prégnante, assez forte, pour faire de l'animation, c'est-à-dire de qu'est-ce que je veux mettre dans ma bibliothèque de quartier. Et la lecture, finalement, c'est parfois... Je ne dis pas c'est une critique, mais en même temps, c'est aussi, ça peut être très bien fait malgré tout. Mais c'est de dire du clé en main, c'est pratique. Un soir, comme ça, je vais sortir des livres, mais je ne m'y implique pas tellement. La lecture, c'est plus, je ne propose plus mes textes. Et je trouve ça un petit peu regrettable dans la mesure. Donc, effectivement, il me semble que c'est le travail aussi de bibliothécaire. Je veux dire, on va chercher des textes, on les lit, on va les chercher, on les propose. On essaye de faire une lecture autour, on essaye de monter ça. Et je trouve qu'il y a un retrait des bibliothécaires. Alors, très souvent, on m'oppose le travail administratif interne qui est effectivement très important. Mais je trouve qu'il faut quand même revenir parfois aussi à un métier de base qui est aussi quand même un métier de bibliothécaire. On est là, j'imagine qu'on est là aussi parce que... On aime les livres, en tout cas au moins pour certains, et voilà. Et donc j'ai vu ce glissement, et moi je le déplore, et c'est vrai qu'on pense plus en termes d'animation, c'est-à-dire que ça va plaire aux gens le soir, et du coup on a parfois des propositions qui sont un peu mainstream, je veux dire, c'est des choses qui... le goût, le corps, le vin, mais dès qu'il s'agit d'aller proposer des choses un petit peu plus différentes, non, c'est niet, ça marchera pas. Et alors il y a toutes ces pressions que l'on se met dans... que l'autorité de tutelle, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait du public, et puis... Finalement, on finit par les intégrer, on les a elles sont intégrées, on ne les remet plus en question. Et voilà, j'attire l'attention parce que c'est vrai que j'ai vraiment vu une évolution sur une dizaine d'années. Et puis, voilà, il faut faire quelque chose qui marche, convivial. Alors, il faut plus de choses trop pessimistes, il faut du drôle. Voilà, parce que sinon, les gens, ils ont besoin de rire, l'époque n'est pas drôle. Si on se contente d'un seul auteur, ça n'ira pas, ça va les saouler, ça, voilà. Et on a tout le... Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu largement... j'attire l'attention parce que je trouve ça regrettable. Alors, ce qui nous empêche pas, alors on est dans cette association, ce qui nous empêche pas de programmer d'autres lectures ou même essayer d'accompagner ces lectures du mieux qu'on peut. Et ça marche aussi. Les bibliothécaires sont là aussi pour faire cet accompagnement-là. Mais c'est vrai que voilà, on est moins.
Ben, on est un peu au cœur du sujet hein, déjà. Peut-être Séverine connaît ça. Peut-être comment alors justement comment on résiste ou comment on essaye de résister par exemple à la bibliothèque d'Annecy cette tentation du glissement progressif dont parlait Philippe Georgeon sur vers le moins d'exigences, le moindre
le
clé en main.
Bah nous, on résiste aussi parce que c'est comme disait Philippe, c'est une question d'envie et de plaisir de lecture. Donc on reste concentré aussi sur le plaisir de l'équipe. On fait des réunions pour trouver un auteur invitant qui nous plaise. Ça, c'est l'essentiel. Puisqu'après, on n'a plus du tout la main sur le nom des auteurs que la personne choisira d'inviter. Donc l'essentiel pour nous, effectivement, c'est de trouver quelqu'un qui nous plaise. On ne s'arrête pas forcément justement à ces restrictions de « ça va plaire, ça ne va pas plaire ». Souvent, on entend beaucoup de choses. Et puis finalement, bah, une fois que l'animation elle se déroule, ça se passe bien. Moi, je sais quand on avait voulu inviter Pierre Jourde, on nous avait dit « oh là là, c'est pas un auteur de roman, ça va pas plaire au public féminin, les dames d'un certain âge. » Et pour le coup, bah, ça a été une saison exceptionnelle, très enrichissante. Le public a découvert quelqu'un qu'il ne connaissait pas, effectivement, mais il était venu pour ça. On est un peu sorti de la littérature romanesque classique. On est un peu entré dans le domaine de la critique. Enfin voilà, on essaye justement, on se pose un peu la question de l'avenir de l'espace littéraire, parce qu'arrivé au bout de 23 ans, effectivement, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite. Après, bah, pour le coup, la formule marche bien. On a toujours du public et les gens nous considèrent comme des prescripteurs. Donc les lecteurs viennent aux rencontres. Souvent, ils n'ont rien lu de l'auteur qu'ils viennent rencontrer et ils attendent de la rencontre une prescription. Et souvent, c'est à l'issue de la rencontre qu'ils décident d'acheter un livre à la libraire qui est présente en fonction de ce qui a été dit pendant la rencontre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous disent, voilà, dès le mois de septembre, ils ont le programme, ils savent quels auteurs sont invités. Pour autant, ils ne lisent pas forcément avant. Ils attendent la rencontre pour savoir si c'est un auteur qui correspond à leurs attentes et aussi pour sélectionner un ouvrage dans le corpus de l'écrivain qui les interpelle. Donc, moi, je pense qu'on a un rôle de prescripteur et si on s'arrête à ces scrupules, ça ne va pas plaire au public, ils ne vont pas venir, on se donne beaucoup de barrières et finalement, on oublie notre mission de découverte. Et c'est en prenant des risques, hein, effectivement, des fois on prend des risques. Quand Pierre Jourde a invité Robert Vigneault, un poète qui était peu connu, voilà, on a eu 40 personnes, c'était le moment où on a eu le moins de monde, ce qui était quand même honnête pour une rencontre littéraire, hein, faut le reconnaître. Et c'était pour autant une rencontre exceptionnelle qui est restée dans les mémoires de ces 40 lecteurs qui m'en reparlent régulièrement. Donc je pense que ce n'est pas une question, voilà, faut pas se mettre de limites, faut partir sur l'envie des bibliothécaires qui sauront transmettre aussi leur coup de cœur au public. Donc c'est vrai que si on s'arrête à des gens qui sont beaucoup lus, qui sont attendus, bah, peut-être qu'on oublie aussi cette mission de découverte et de prescription qui est la nôtre.
Et pour aller un petit peu plus loin sur cette, dans ce thème et sur un point plus précis qui est un petit peu en décalage avec la situation idyllique d'Annecy, plus sur la question de la lecture, alors du coup, puisque là on est sur la rencontre de l'écrivain, et maintenant sur la question de la lecture, c'est-à-dire de la lecture à voix haute, comme vous dites Isabelle, les lectures, on a horreur du. Le monde a horreur du vide, donc les lectures sont devenues à deux voix, puis à trois voix, puis à musique, puis à acoustique, puis avec mise en espace, puis etc. Donc c'est vrai que par rapport à ça, la voix de l'écrivain ou la voix de la lecture, puisque vous lisez également à voix nue, vous m'avez parlé de lecture à voix nue, donc ça c'est intéressant
de
par rapport à cette question. On dit aussi souvent que les écrivains lisent mal, hein, ou parfois on dit les écrivains lisent mal, ne savent pas lire leur texte, donc à la limite mieux vaut inviter un comédien, mais qu'est-ce qu'apporte la voix d'un comédien, la voix de l'écrivain lui-même par rapport à son texte, comment vous... Je sais que c'est quelque chose qui vous anime et qui vous...
Oui, complètement. Donc, je vais vous faire part de notre expérience et de ce que je découvre de plus en plus. Et là, on vient de finir cette cinquième édition sur Osons l'amour. C'était le thème, puisqu'il y a un thème. et qui a été ouvert par un philosophe où il y avait une belle salle, hein, puisqu'à Creil, il y avait quand même 70 personnes. Et pour vous dire, sur ce cinquième festival, on a toujours, entre nous, on n'est pas à 40, 80, à Annecy depuis 20 ans, mais depuis 5 ans, nous tout seuls, compagnie, sans l'aide de la bibliothèque, mais avec l'aide du Conseil général, mais je veux dire, sans partenaire institutionnel fort, on a 50 personnes, 40 personnes, 25, bon, André Imakine sur un texte d'André Imakine, parce que c'était pas André Imakine, peut-être. Bon, alors l'intérêt, vraiment, c'est vraiment très intéressant de croiser les deux, mais honnêtement, il faut défendre les deux types de lecture. L'intérêt de la lecture d'auteur, réellement, c'est qu'on entend la voix de l'écriture. Et il faut arriver à défendre ça, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion aussi. On n'est pas forcément que sur le terrain du sens et du contenu. Mais on est sur un terrain humain, territoire humain, qui est extrêmement fort. Je rejoins complètement ce que vous avez dit, parce que les gens qui sont venus voir... Nous, par exemple, il y avait Laurette Nobécourt, qui est relativement connue. Donc il y a quelques personnes qui sont venues entendre Laurette Nobécourt, mais la plupart sont venus découvrir quelqu'un. Et ont été séduits par la personne, par la voix, ou ont été questionnés par sa voix. Parce que souvent, c'est des gens, les auteurs, qui font pas forcément un travail sur le rythme ou sur... qui donnent pas plusieurs voix à entendre sur un texte. Après, bon, si c'est pas un roman, parfois, il y a qu'une voix. Si c'est un auteur dramatique, même, il donne qu'une seule voix à plusieurs personnages. C'est pas la... Et ça se passe très bien. Et ça fait vraiment entendre le souffle. Donc, on peut vraiment rentrer dans l'écriture. Ensuite, bon, ben après, les gens peuvent poser des questions sur le contenu, ou en tout cas, ont envie d'aller au livre. Alors là, systématiquement, ça ramène au livre. On va acheter le livre, on va acheter d'autres livres. On a envie de savoir, des choses sur cette personne-là. Donc, je trouve que c'est extrêmement vivant. Même ceux qui disent, je dirais, pas bien, et on peut tout à fait discuter avec eux en amont pour ne pas programmer complètement une heure de lecture avec des auteurs qui sont plutôt frileux par rapport à cet exercice. Nous, on a eu une rencontre la veille avec Cécile Beauvoir, qui est une auteure qui vit donc en Auvergne, qui écrit des textes très courts, et elle a proposé quelque chose d'assez original. Elle a lu, on va dire, 10 minutes, puis elle s'est arrêtée dès le départ. Elle a proposé que ça soit sous forme de rencontre. Et très vite, quelqu'un a dit quelque chose, a fait part d'une sensation sur un texte. Ça, on n'était pas dans ce rapport-là. Hein. Bon, ce qu'il faut, c'est vraiment soigner la relation aussi de celui qui écoute et de celui qui lit. Si on est ça, ben c'est sûr que ça va être dur. Donc, il faut voir comment on met quelle distance on met, comment on fait un arc de cercle. Voilà, c'est très important où on se pose. Si on met une table, nous on met un tapis. Il y a une table qui n'est pas une table comme celle-ci, c'est une table, c'est habité. Mais il n'y a pas de mise en scène extraordinaire, mais il y a une petite scénographie, une lumière. C'est des petites choses, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours quelque chose qui préoccupe les bibliothécaires, et je trouve que c'est vraiment le plus. C'est des petits plus. Et donc, la table n'était pas entre le public et l'auteur. Elle s'était ouverte. Il y avait un espace ouvert. Et il y a vraiment une discussion qu'on a dû arrêter au bout d'un moment parce qu'on avait froid. On était dans une chapelle. Mais donc une discussion lecture. Le lendemain, lecture avec Laurette Nobécourt pendant plus d'une heure où elle n'a pas arrêté de lire, sur 8 livres. Elle avait choisi des passages importants sur 8 de ses livres. Et ensuite, la discussion est venue très lentement. Et il ne faut pas avoir peur non plus du silence. On n'est pas animateurs de conversation. Suite à une lecture, on n'a pas envie de parler tout de suite. Prenons le temps et parlons de notre sensation aussi en tant qu'auditeur de la lecture. Mmh. On n'est pas des animateurs. D'ailleurs, les auteurs n'aiment pas ça.
Et est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce que on n'a pas tous connu... Des lectures épouvantables de comédiens qui surjouent des textes, qui théâtralisent, voilà. qui euh, Et qui finissent par déformer totalement le sens d'un texte. Moi, j'ai vécu ça il y a très peu de temps à Lyon pour une lecture autour de Charles Julliez, où le pauvre Charles Julliez, qui est un monsieur tout en retenue, tout en intériorité, quelqu'un a lu ses sonnets comme si c'était, je ne sais pas, entre Goethe et... Oui. Et voilà. Et c'était vraiment une catastrophe, quoi. C'était un contresens absolu. Et c'est vrai que parfois on peut aussi associer le comédien à cette théâtralisation. Et c'est ce que vous dites, ça rejoint aussi un peu cette peur du vide, toujours peur du silence.
Voilà. Donc la lecture à voix nue. Donc moi, je propose de plus en plus des lectures à voix nue. Ou quand c'est des duos, je le présente vraiment comme tel avec un musicien où on est déjà aussi. Et c'est pas n'importe quel type de texte. Je fais souvent sur soi des textes. Qui se rapproche du théâtre ou de la poésie, mais sur, par exemple, Enfance de Nathalie Sarraute, j'ai lu 1h20 devant toutes sortes de gens. Et à chaque fois, donc, je baissais les yeux quand j'allais changer de chapitre. J'avais fait un tout petit effet, si on peut dire, mais qui était un effet de rythme et de silence. Et la première fois, je me suis dit, quand je vais lever les yeux, je vais les voir se gratter le nez, se racler la gorge, la tête. Et je relevais... Et ils avaient la bouche ouverte comme les enfants, puisque quand on écoute vraiment, quand on écoute un texte, une lecture, on a la bouche ouverte, puisque c'est une nourriture. Donc j'avais convié, donc ça c'était pas sur celle-ci, mais sur Les Demeurés de Jeanne Benhamer, vous connaissez, qui est un texte tout à fait abordable, mais il y a une réelle écriture contemporaine. Celle qui programmait les animations, comme ils disent, à Valence. Et elle a été étonnée de façon positive. On pouvait écouter une lecture d'un texte complet, voilà, sans avoir nécessairement un montage de lecture ou une animation autour de la lecture et que le public suivait. Donc, je veux dire, si vous êtes convaincu et que si vous aimez, c'est pour ça que j'ai une d'amour, si vous êtes convaincu que vous aimez, que vous préparez quand même cette chose-là, parce qu'on est plus près. Aujourd'hui, à écouter réellement une heure, c'est vrai, à écouter. Déjà, ça peut être trois quarts d'heure, pas une heure. À écouter, en soignant l'accueil et en soignant cette mise en espace de la lecture, vous allez voir que nous, on est extrêmement étonnés de l'accueil qui est fait aux lectures.
Philippe, vous à Saint-Étienne, oui. Dans les médiathèques, on lit par
comédien. Et c'est vrai que chaque fois qu'on a une rencontre littéraire, on essaie de demander à l'écrivain qui vient de lire un passage. On ne fait pas effectivement une œuvre complète, ni un temps aussi long, mais on essaie de plus en plus de le demander aux auteurs, s'ils sont d'accord, bien évidemment, mais... Je trouve effectivement c'est la voie de l'écriture qui est celle de l'écrivain qui est intéressante, même avec toutes les imperfections que l'on peut rencontrer, parce que c'est vrai qu'il y en a qui y a des auteurs, c'est pas leur métier de pouvoir dire leur texte, mais je trouve toujours intéressant, et c'est rare qu'une lecture faite par un auteur de ses propres textes soit une lecture qui ne touche pas à un moment ou à un autre. Il y a toujours ce moment, elle touche peut-être pas forcément sur la longueur, parce qu'effectivement, il y a peut-être des imperfections, mais il y a toujours un moment où la vérité de son écriture transparaît et elle touche le cœur, les oreilles des gens, et c'est visible, c'est palpable. Pour rebondir, c'est vrai aussi que quand à Médiathèque, l'année passée, on avait invité... c'est aussi, je dois dire aussi, ça dépend aussi de la qualité des comédiens, aussi, parce que c'est vrai aussi que l'économie des bibliothèques est telle aussi que les budgets ne sont pas non plus des budgets trop très grands, très importants, et c'est effectivement faute. Faute d'un grand comédien ou d'un comédien professionnel, parfois on va chercher un comédien qui n'a peut-être pas forcément toutes les qualités, qui ne connaît pas, et qui ne connaît pas les auteurs. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est que le monde du théâtre ne connaît pas forcément la littérature contemporaine.
Et parfois on a
des grosses difficultés, parce qu'effectivement, d'où le quoi peut-être de Charles Julliez, c'est que si on ne connaît pas son univers, si on ne connaît pas un peu qui il est, on fait des contresens. Et souvent, je trouve que les comédiens, ils ont un mal, et ils connaissent très peu la littérature contemporaine, les romans. Et je trouve qu'il y a bien souvent une mauvaise appréhension des textes.
Séverine, dans le cadre de l'espace littéraire, vous donnez aussi la voix aux auteurs pour la lecture, et comment Comment vous apprenez ça, vous, au sein de l'espace littéraire?
Mais en fait, nous, il n'y a pas de règle établie, puisque c'est l'auteur invitant qui décide un peu de la, disons, de la forme qu'il va donner à la rencontre. Mais c'est vrai qu'en général, pour chaque rencontre, il y a un moment de lecture. Donc, soit par l'auteur qui est invité, mais parfois par l'auteur invitant. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Parfois, peut-être parce que l'auteur invité n'est pas à l'aise avec la lecture. Mais je rejoins aussi ce que vous dites. Moi, j'ai jamais été déçue par la lecture d'un auteur, même s'il n'était pas très à l'aise. Il y a toujours... La lecture d'un auteur apporte toujours quelque chose de plus. Disons, je dirais qu'en fait, la lecture d'un comédien, elle sera centrée sur le texte. La lecture d'un auteur, elle va apporter quelque chose qui concerne le paratexte, tout ce qu'il y a autour. On retrouve justement la matière de l'écriture, on retrouve ce moment d'émotion qu'il a ressenti, lui, à l'écriture. Donc même si c'est quelqu'un qui n'est pas un très bon lecteur, dans l'absolu, ça sera toujours un moment d'émotion et un moment intéressant qui nous apporte un peu plus... que le texte brut. Et moi, c'est vrai que pour l'instant, j'ai jamais été déçue par la lecture d'un auteur, même des auteurs qui sont très crispés. Moi, j'ai le souvenir d'Éric Chevillard qui était complètement paniqué. C'était la deuxième rencontre qu'il faisait en 20 ans. Et la première avait dû être horrible parce que vraiment, il en avait un souvenir. Et au départ, il n'était pas très pour la lecture. Pierre Jourde l'a un peu... Et puis finalement, ça a été un moment de lecture, mais passionnant, avec une salle qui hurlait de rire parce que c'est quelqu'un de très drôle. Et voilà, pourtant, lui, il n'était pas très pour cette lecture. Et puis finalement, ça a été un moment exceptionnel. Il en était très content. Il nous a demandé la vidéo pour se revoir. Et c'est vrai que du coup, voilà, je pense que voilà, la lecture d'un auteur, même si ce n'est pas quelqu'un qui est, dont c'est le métier, elle nous apprend toujours quelque chose sur l'auteur et son œuvre.
Moi, j'ai quand même le souvenir de quelques lectures de poètes épouvantables, mais ça, c'est sans doute pour chacun. Alors, Philippe, vous parliez d'une question aussi d'économie. C'est important parce que c'est vrai que on sait que les budgets des bibliothèques sont restreints, on sait que les budgets pour l'animation sont restreints, on sait que des mauvais comédiens coûtent moins cher que des bons comédiens, on sait
c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
J'ai dit tout de suite, c'est pas vrai.
On fera une promo spéciale, Isabelle.
Non, il y a aussi l'histoire du marché. Quand je défends complètement cette aventure de texte à dire que j'ai trouvé formidable, mais c'est vrai qu'il y a eu une déviance et qu'il y a une demande. Cette demande aussi par peur du livre ou du public, mais qu'on retrouve partout dans notre société d'aujourd'hui. De toute façon, cette question du divertissement, ouais. Ou de penser ce que peuvent attendre les gens, comme on dit, a fait que la demande était de plus en plus vers le spectacle, ou du Queneau, du Tardieu, enfin bon, voilà. Qui a fait que les comédiens ou les compagnies ont progressivement travaillé sur ces auteurs-là. Et bon, alors, je voulais juste dire quelque chose sur ce que vous avez dit sur le rapport à l'écriture des comédiens. C'est quand même important. C'est une des raisons pour laquelle j'ai créé ce festival. Et c'est bon, ils savent pas qu'ils n'ont pas de relation avec l'écriture contemporaine. Ils en ont une dans les gens qu'ils ont formés, avec l'écriture dramaturgique, avec le texte de théâtre. Après, c'est vrai que c'est intéressant de savoir à qui on a affaire, comme avec un auteur. Est-ce qu'il est en mesure de... quelle lecture fait-il du... C'est pour ça que la lecture à voix nue est importante, parce qu'elle amène, elle oblige à aller réellement dans le texte, dans le chemin du texte, dans l'écriture, à aller vers l'auteur, dans le rythme. Et on ne peut pas en faire l'impasse. Donc je ne vois pas comment on pourrait lire Charles Julliet en faisant... Enfin, c'est terrifiant ce que vous dites.
Bon.
Ah oui, non.
Et pourtant ça existe.
Au niveau économique, c'est moins cher d'inviter un auteur qu'un comédien pour défendre les auteurs. Sauf ouais. Moi. Mais sinon,
non, on fera présente, des...
mais ça revient moins cher. Un cachet d'auteur, c'est moins élevé qu'un cachet de comédien. Enfin, c'est un droit d'auteur, on dit.
Philippe, par rapport à ça, parce que je voudrais bien qu'on parle d'argent un peu là.
C'est effectivement le cas. Je veux dire, quand on veut créer une lecture à partir d'un désir, on s'aperçoit tout de suite que le budget n'est pas celui d'une rencontre d'auteurs. Et alors qu'est-ce qu'on fait si on veut effectivement être sur des lectures? Et ben, alors on est dans des associations, on essaye de voir un peu les troupes de comédiens qui sont dans la région, ou alors on fait partie d'une association et on essaye de monnayer ou de pour pouvoir avoir ces lectures-là. Mais si on est dans la création d'une lecture pour une bibliothèque, très souvent c'est quelque chose qui est beaucoup plus cher et pas toujours à la portée des bibliothèques. Alors quand on est dans une grosse bibliothèque, il y a des budgets plus importants, mais j'imagine que quand on est dans une plus petite bibliothèque, on n'a pas le budget pour faire une création. Mmh. Alors que la rencontre d'écrivains, quoi qu'on en dise, c'est que économiquement et financièrement, c'est moins cher. Je veux dire, mais ça répond aussi, l'économie du livre est ainsi faite, et l'économie du spectacle obéit à d'autres règles. Donc voilà, après, il faut le savoir, mais c'est aussi une réalité.
Alors, par rapport à ça, Séverine, les questions justement d'économie ou d'évolution justement des cycles, est-ce qu'à Annecy, l'espace littéraire, dont vous avez rappelé le principe, est-ce qu'il y a un essoufflement? Est-ce que les choses sont compliquées aussi parfois à défendre au sein d'un établissement? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que entre guillemets c'est rentable?
Pour la question de la rentabilité, je ne pourrais pas répondre. Je sais qu'on a un budget qui est assez confortable et qui est constant. Donc, on a aussi encore là une situation assez exceptionnelle. Donc, ma responsable de l'animation m'a communiqué les budgets exacts. Donc, on a un budget de 11 700 euros pour l'animation, pour l'ensemble de l'animation annuelle. Et ça se découpe ainsi. Tout compris, je vais vous expliquer un peu le découpage. Donc, on a 3 200 environ de communication puisqu'on imprime des plaquettes, des affiches qu'on envoie à l'ensemble pour l'espace littéraire, uniquement pour l'animation espace littéraire. Donc c'est vrai que c'est un gros budget. La rémunération des intervenants, elle nous coûte environ 4 500 euros. Pour répondre à votre question, il faut savoir que l'auteur invitant reçoit une rémunération d'environ 3 000 euros et les auteurs qu'ils invitent viennent pour 220 euros. Donc c'est vraiment pas une question d'argent pour eux, c'est plutôt une question de transmission et d'envie. Donc voilà, on a des très bons auteurs voilà, qui viennent pour 220 euros, un défrayement et une chambre d'hôtel. Et après, voilà, tout ce qui est réception, parce qu'on fait un petit buffet à la fin des rencontres, le public aime beaucoup. Parce qu'à la fin de la rencontre, voilà, on rencontre. À la fin de la rencontre, justement, on envoie les auteurs vers le buffet et dialogue avec les lecteurs. D'autant que l'auteur qui vient toute l'année, lui, au bout de la deuxième ou troisième séance, il est un peu comme chez lui. Presque, il fait partie de l'équipe. Ça dépend de l'implication de l'auteur, mais quelqu'un comme Valentine Gobi, dès la deuxième saison, on avait l'impression qu'elle faisait partie de l'équipe de bibliothécaires. Elle connaissait les lecteurs, elle connaissait tout. Donc, elle était très impliquée. Et puis après, le déplacement des auteurs, ça nous coûte à peu près 1 800 euros. Mais c'est vrai que c'est au niveau de l'accueil des auteurs, ce n'est pas tellement un gros budget pour le coup. Je ne connais pas les budgets de comédiens, mais c'est vrai que voilà, les auteurs se déplacent pour... Voilà, ils ne me demandent pas...
Ce n'est pas le même travail, hein, parce que l'auteur vient avec son livre, en général, il ne l'a pas forcément préparé. Le comédien fait vraiment un travail, normalement. Moi, quand je fais un travail sur un texte, ça peut me prendre un mois. Où on fait un travail où on ne peut pas lire, c'est rare qu'on lise l'œuvre entière, donc il y a un travail sur le montage, et puis après un travail sur la voix, le rythme, le souffle du texte, qui peut faire entendre des textes très, très, très difficiles, hein, donc ce n'est pas le même boulot.
L'auteur vient aussi dans le cadre d'une promotion, donc il sait qu'il y aura une vente de ses ouvrages à la fin, ça lui permet de se faire connaître, donc effectivement l'auteur a moins de... comment dire, d'exigences financières dans l'absolu.
Et puis très souvent, l'auteur, bien souvent, a un autre métier. Il faut le dire aussi, ce qui n'est pas toujours le cas des comédiens. Hein. Voilà.
Donc, c'est une économie. Alors, justement, je voulais laisser un petit peu la parole au public, à vos questions, si vous voulez, madame. Je crois qu'on n'a pas de micro. Si, un micro. Merci. Là devant.
Merci. Merci. Dans le cadre de la manifestation que vous organisez, combien d'auteurs invite l'invitant par an?
Alors en fait, l'auteur invite 5 autres auteurs et il choisit une personne qui le présentera à la fin. puisqu'effectivement, lui, il a joué le rôle du présentateur toute l'année et il a le choix donc, de la personne qui le présentera à son tour. Donc, ce sont souvent des journalistes ou des éditeurs ou des gens, voilà, d'autres auteurs. Donc voilà, il invite 5 personnes plus une, mais qui est chargée de le présenter. Merci. C'est une par mois, en fait. Donc en fait, voilà, de novembre à avril. Donc voilà, au rythme d'une par mois, l'auteur invitant choisit. Donc il monte son calendrier tout seul en plus. Hein. C'est vrai que c'est lui qui prend son téléphone. On lui donne des dates possibles en fonction des autres animations de la bibliothèque. Mais c'est vrai que voilà, c'est là pour le coup, notre auteur pour l'année prochaine, bah, il est au travail, comme on dit. Et on attend justement qu'il nous communique sa liste d'invités pour que nous puissions commencer nos lectures et préparer les rencontres. Alors, je peux vous le dire, parce que de toute façon, ça a été confirmé, donc ce sera M. Antoine Choplin, dont on a pu avoir les coordonnées grâce au site de l'Harald, hein, que je vous conseille, parce qu'effectivement, il y a certaines rubriques dans le site qui permettent d'avoir les coordonnées directes des auteurs et vous gagnez un temps fou.
Je ferai la promo, là, juste avant de se quitter. Allez-y.
Oui, je sens que je vais me mettre à dos les comédiens, les bibliothécaires et les auteurs.
Tant mieux, tant mieux.
Mais, oui, tout ça d'un coup. Mais bon, je prends le risque, en jeunesse, je ne travaille pas en jeunesse, hein, je travaille en secteur adulte, mais en jeunesse, il y a des lectures, des heures du conte tout le temps. Les bibliothécaires le préparent, font ça la plupart du temps plutôt bien. Je suis surprise que ça ne se fasse pas plus du côté adulte. Dans un précédent poste,
vous voulez dire que les bibliothécaires lisent
eux-mêmes les lectures. Eux-mêmes. Ça m'est arrivé moi-même de le faire dans un de mes précédents postes, plutôt dans les collèges et les lycées, avec plus ou moins de bonheur. Hein, je dis pas, je suis pas comédienne, je suis d'accord. Enfin, tout le monde va se récrire en disant c'est pas notre métier, mais pourquoi pas finalement? Pourquoi ça ne pourrait pas être notre métier?
Alors ça n'élude pas la question de la présence de l'écrivain en bibliothèque. Hein, c'était aussi un peu ça, nous, le fond de ce débat. C'est qu'on a le sentiment, nous, qu'à notre place de l'interprofession, puisqu'on travaille, nous, aussi bien avec les libraires, les bibliothécaires, les éditeurs que les écrivains, on ressent comme ça, de manière diffuse, on n'a pas d'éléments statistiques, mais on ressent une moindre présence des écrivains ou disons de la littérature contemporaine dans les bibliothèques. Alors c'est vrai que parfois quand les auteurs viennent, et moi ça m'est arrivé de le voir, certains auteurs préfèrent même parfois que ce soit des bibliothécaires qui lisent un extrait de manière sympathique plutôt qu'effectivement une lecture mal fagotée comme en parlait Isabelle, même si effectivement il y a des comédiens qui font un vrai travail, etc., on l'a bien compris. Maintenant que les bibliothécaires lisent eux-mêmes, je ne pense pas que ce soit l'heure du compte pour les grands. C'est possible, j'imagine que ça... Je ne sais pas, qu'en disent les bibliothécaires?
Alors, bah nous, on a un cycle de comptes pour les adultes, enfin tout public. Effectivement, ce sont les bibliothécaires qui s'en chargent. On a la chance d'avoir une petite équipe de bibliothécaires qui sont passionnés par ça et qui sont déjà engagés à titre personnel dans des associations. Donc voilà, c'est des gens qui ont à la fois l'envie, la compétence. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a ce petit cycle, effectivement, qui marche très bien. Les gens sont très demandeurs. Ça s'appelle les contes pour les 4 saisons, mais c'est plutôt sur le thème du conte, c'est pas vraiment la littérature.
Parce que finalement, la question, au bout du compte, la question, c'est quand même, est-ce que tout ça fait lire, quoi? Enfin, c'est quand même ça qu'on... Est-ce que faire venir un auteur, ça déclenche des prêts? Est-ce que ça fait éventuellement vendre des livres? Est-ce que ça fait lire les gens, que ce soit un auteur, un comédien ou l'heure du compte? Enfin, je veux dire, c'est quand même ça, j'imagine, pour la bibliothèque... Le sens de tout ça, hein. Excusez-moi.
Non, justement, je voulais rebondir là-dessus parce que moi, je me suis rendu compte que dans ma pratique professionnelle, au départ, je suis dans une petite bibliothèque dans la banlieue de Grenoble, une ville de 6000 habitants, mais j'ai travaillé aussi à Nantes. Enfin, voilà. Donc, j'ai une pratique un peu large. Et donc, pendant toute une époque, j'ai accueilli des lectures faites par des comédiens. Et je trouve que depuis quelques années, les lecteurs ne viennent pas à ces rendez-vous-là. Alors je pense que c'est peut-être parce que, on n'est pas assez impliqué, l'équipe de la bibliothèque, quand ces lectures arrivent. C'est de la consommation. Et depuis 3 ou 4 ans, nous avons formé quelques lecteurs et l'équipe de bibliothécaires qui est toute petite, hein, parce que nous sommes deux en adultes. Et nous faisons plutôt des formules... petit déjeuner littéraire, de présentation de livres où tout le monde s'implique. Et là, ça suscite des emprunts extraordinaires. Et parallèlement, on a un cycle d'accueil d'auteurs. On profite des manifestations de l'agglomération, comme le Printemps du Livre, pour accueillir des auteurs qu'on ne pourrait pas faire venir dans notre petite bibliothèque. Et je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant pour notre travail, pour nos lecteurs. On a un taux d'emprunt qui a augmenté par rapport aux livres qu'on présente. Mais par contre, je suis très malheureuse parce que moi, j'aime beaucoup les lectures de comédiens. Mais du coup, j'ai un petit budget, je ne peux pas distraire de l'argent, je n'arrive pas à trouver une formule ou avec un travail avec un comédien qui nous donnerait le même retour. Donc je suis à la recherche d'idées parce que je ne veux pas abandonner non plus le travail avec les comédiens. Voilà.
Isabelle, sur cette question de l'implication, vous qui vivez de l'extérieur, justement, l'implication ou la moindre implication des bibliothécaires, peut-être vous pouvez répondre ou dire un mot là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on a compris que c'était évidemment beaucoup question, de Philippe le disait, d'envie, d'amour, d'implication.
Non, mais il est indéniable qu'il y a une ambiance autour de... Déjà, c'est devenu médiathèque, la bibliothèque. Donc, il y avait donc cette ouverture vers la musique, etc. Donc, ça, c'était tout à fait intéressant. Sauf que progressivement, et je pense qu'il y a une pression aussi des tutelles, comme on dit, je vois, nous, ces conseils généraux et autres, pour qu'il y ait du monde dans ces salles qui sont... dans ces bibliothèques, donc on fait de la danse, on fait tout ce qu'on veut, mais rien, enfin, entre autres rien autour du livre.
Et sur l'implication des équipes.
Et beaucoup pour la jeunesse, beaucoup donc de contes. Moi donc j'ai fait un cycle de formation pour des bibliothécaires et donc j'ai été stupéfaite puisqu'elles venaient toutes en demande pour la lecture jeunesse. Donc j'avais pas du tout préparé moi mon intervention autour de ça. Donc elles se sont retrouvées à lire Novarina, Sarraute, etc. Donc le premier jour, il y a eu une panique. Et puis le deuxième jour, tout le monde, le bilan, c'était bon, on va lire ces livres-là. On va essayer, je leur ai dit, commencer par 10 minutes, parce que c'est ça aussi. Tenir une heure, même pour un auteur, c'est quasiment impossible. Il y a un travail de souffle, un travail de rythme, un travail de présence qui est très important. C'est pour ça que les lectures, ça peut être épouvantable. C'est un très gros travail. Moi, je fais des formations. J'ai des lecteurs maintenant, et j'en ai eu sur le festival, celles qu'on lu Makine ou Petite table soit mise d'Anne Serre, qui est un texte magnifique. Et c'était d'un très haut niveau. C'est pas des comédiens, c'est des gens qui pratiquent cette activité donc régulièrement avec moi. Et on ne fait que ça pendant 3 heures chaque semaine.
Et
donc, on peut pas scoltiner non plus une lecture à voix haute comme ça. Mais on peut faire 10 minutes, on peut faire un quart d'heure ou plusieurs, où on peut se partager une lecture à plusieurs bibliothèques où chacune travaille sur parce que ça peut faire peur aussi de rentrer dans l'écriture.
Philippe, pour répondre à madame, cette question, parce qu'elle donnait cet exemple intéressant, je trouve, de la lecture rituelle qui est désertée par le public des lecteurs, et puis tout à coup l'implication de l'équipe, donc de deux bibliothécaires, sur un projet finalement plus modeste, mais plus vivant et plus porté par le personnel de la bibliothèque.
Alors, qu'est-ce que vous... Effectivement, moi, ça me paraît tout à fait intéressant, cette expérience. Mais c'est vrai que je vérifie aussi la frilosité aussi des bibliothécaires à se lancer. Hein. C'est pas dans mon métier, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas l'habitude, je ne sais pas comment faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et c'est difficile parfois pour les gens. Autant en jeunesse, c'est accepté, c'est rentré dans les missions, dans les fiches de poste, voire éventuellement. Autant en adulte, c'est beaucoup plus difficile, plus rare, et une plus grande difficulté. Et c'est vrai que, après, l'idée, c'est effectivement, si on fait appel à des lecteurs, de pouvoir englober le personnel et de se sentir finalement, on est tous au même niveau. Je pense qu'effectivement, c'est un effet d'entraînement qui peut être de nature à débloquer certaines situations. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, dans ma bibliothèque, il y a pas de lecteur bibliothécaire adulte. Hein. C'est vraiment très réticent, j'essaye là aussi, mais c'est quelque chose, je sens bien, on n'a pas appris ça, c'est un autre métier, et toutes ces restrictions. Et c'est la même chose pour recevoir des écrivains. Hein. Alors nous, à Saint-Étienne, on a aussi un budget médiation, parce qu'il y a des auteurs, pour lesquels moi et puis d'autres, on anime le débat, la rencontre, la médiation. mais il y a des auteurs pour lesquels je ne sens pas de le faire, ou je ne veux pas le faire, ou enfin bref, pour différentes raisons. Ça n'empêche pas de lire les auteurs, puisque hein, bien évidemment, ils sont quand on les invite. Mais mes collègues sont très, très réticents. Alors, on y arrive un petit peu plus de manière assez lente, et je sens que les choses sont en train de venir. Mais c'est vraiment, on sent une espèce de peur vis-à-vis de l'écrivain. Est-ce que j'ai bien compris son livre? Est-ce que j'ai bien... Et il y a pas une souffrance parfois, mais je le sens, parce qu'on a reçu un écrivain, David Vann, un écrivain américain, à la bibliothèque, qui était, par le biais justement des bonnes relations qu'on a avec le libraire de la ville. Et donc, on s'est dit, on va faire la rencontre à trois. Alors, on s'est mis pour essayer de faire les questions que l'on pourrait poser. Mais je sentais que mes collègues étaient sur le... Est-ce que ce qu'on va dire est intelligent? Est-ce que ça correspond bien? Et c'est un questionnement qui est réel. Et alors après, c'est... Pardon?
Expérience justement avec Laurette Nobécourt, à qui j'ai écrit un courrier suite à sa venue, et qui m'a remercié de la simplicité avec laquelle elle avait été accueillie. Donc évidemment, il y a le repas, il y a tout ça, mais c'était pas de ça dont elle parlait. C'est que moi, je n'avais pas préparé de questions intelligentes. J'avais lu, évidemment, mais j'ai écouté la lecture, vraiment au même titre que tout le monde, et ensuite je me suis positionnée comme une auditrice, comme quelqu'un qui venait d'entendre au même titre que les autres. Je ne me suis pas assise non plus à côté d'elle pour faire une intervention, donc bien sûr, c'était une lecture. Donc après, on a commencé à parler progressivement, on est rentré dans le texte, et puis après dans l'écriture, et puis après vers l'auteur. Mais on a commencé à parler comme on parlerait avec une amie ou un ami d'une lecture qu'on vient de faire. C'est aussi, il faut aussi de l'humilité, un peu moins d'orgueil. On a peur parce qu'on veut être intelligent. Alors, soyons pas forcément intelligents, soyons des êtres sensibles.
Ne soyons pas intelligents et laissons la,
pas trop intelligent.
La parole. Pas trop.
Bonjour, je voudrais avoir une précision pour l'espace littéraire d'Annecy sur la relation avec le libraire. C'est-à-dire que le libraire est présent pour la vente des livres.
Voilà, donc on est en partenariat avec la librairie Imaginaire, qui est une petite librairie de la région annécienne. Donc effectivement, on est en partenariat toute l'année, puisqu'on commande les livres de l'auteur à la librairie. Et la libraire vient sur place tous les soirs de rencontre, avec dans ses cartons des livres de l'auteur invitant et de l'auteur invité. Donc le public a l'occasion 6 fois dans l'année, justement, à la suite de la rencontre, d'acheter le livre et de le faire dédicacer. J'avais pas précisé ça, effectivement. Donc, l'auteur invité dédicace son livre à l'issue de la rencontre, ce qui permet d'ouvrir un peu le dialogue. Et je vous rejoins aussi, la clé d'une réussite d'une rencontre, c'est vraiment la convivialité. Et si on reste dans quelque chose de mécanique, si on... Voilà. Et même le public, il a besoin de cette convivialité, il a besoin de ne pas se sentir jugé. Et on est tous là pour découvrir quelque chose, chacun à son niveau. Et c'est vrai que voilà, la convivialité, c'est vraiment la clé pour que le public se sente à l'aise et revienne pour le coup.
Je sais qu'il est, il est 10h10, je ne sais pas, on peut... Enfin, moi, si personne ne rentre, on peut rester là encore un moment. Hein.
Alors, j'aurais voulu
tout à l'heure d'aller bien. Allez-y, oui.
Réagir sur 2 choses. Par rapport à la lecture pour adultes, moi, je viens d'une petite commune de moins de 10 000 habitants et j'ai du mal. Je suis responsable du secteur adulte et je prône et je réclame de faire des séances de lecture pour adultes. Mais je suis freinée à la fois par ma hiérarchie qui considère que l'heure du compte, OK, c'est légitime, mais les adultes, ils n'ont pas besoin qu'on leur lise des histoires. Ils n'en ont pas besoin. Quand ce n'est pas carrément les tutelles. Et puis après, pour les rencontres d'auteurs, parce que j'en fais, et là aussi, c'est pareil, c'est pratiquement un travail de militant. Moi, je voudrais rassurer tous les bibliothécaires qui n'osent pas se lancer.
Allez-y,
parce que je suis... les questions intelligentes, je m'en fiche. Je ne suis pas là pour me mettre en valeur. Je suis là pour mettre en valeur un écrivain et son œuvre. Donc, je dirais même en plus que j'en rajoute un peu dans le sens bêtasse pour décomplexer aussi le public qui vient. Et le public, il est fidèle depuis 12 ans. Il vient aux rencontres qu'on organise de façon très modeste. Donc, le truc, c'est en effet de connaître les textes. Hein. C'est une évidence. Et là, les écrivains sont... quelquefois même surpris qu'on leur a dit pour préparer la rencontre quand même. On n'a pas choisi de vous inviter par hasard, on a lu vos textes, c'est une évidence. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut comme disait madame, rebondir et faire en sorte que ça soit une discussion. On papote avec quelqu'un. Bien sûr, je prépare, hein, je cherche des choses à dire sur quels sont les thèmes qui sont récurrents et tout. Là. Mais j'ai mes petites fiches qui me rassurent moi, mais dont je tiens quasiment pas compte parce que j'essaie de faire en sorte de répondre, de me raccrocher à ce que vient de dire l'écrivain. Et tant pis si c'est pas le déroulement que j'avais prévu, tant pis si on occulte des pans entiers de son œuvre, je m'en fiche du moment que le dialogue se passe et que dans l'assistance, je vois qu'il y a un retour et qu'il y a une écoute du public. Donc allez-y, lancez-vous, c'est pas compliqué. Et puis vous verrez que c'est un réel bonheur et qu'en principe, les écrivains qui sont venus chez nous, ils ont été contents de la façon dont elle les a accueillis parce qu'on l'a fait simplement. Et ça, je crois que c'est la sincérité et l'honnêteté du travail, c'est toujours reconnu.
Bien, on va vous laisser, je crois, le dernier mot, hein, parce qu'il était bien tenu. Donc, soyons bêtas, osons. Voilà. Et puis pour reprendre, osons l'amour de la littérature, hein, osons l'amour était le titre des Envolires. Voilà, merci à tous. Je vous propose juste, si vous avez quelques minutes, de passer sur le stand de la RAD qui est à côté, où on pourra vous montrer le site des auteurs Rhône-Alpes, si ça vous intéresse, et d'autres documents, dont celui-ci, juste comment accueillir un auteur. C'est une brochure que nous avons éditée spécifiquement ou presque à destination des bibliothécaires pour les aider à accueillir un auteur, tout ce qui est formalité, paiement, etc. etc. Donc vous trouverez ça sur le stand de la RAD juste à côté. Merci à vous.
C'est combien de rencontres? Est-ce que ça va être intéressant encore?